Le podcast consacré à l'article de couverture d'E3 est une discussion critique et constructive pour la communauté SAP du point de vue de la rédaction d'E3. Deux avatars IA sont équipés de toutes les sources de la rédaction d'E3 et expliquent aux clients SAP existants les défis, les tâches et les pièges à éviter. Les différents thèmes sont abordés de manière critique, mais constructive, et accompagnés de nombreux conseils et astuces. Cet épisode du podcast 3, Cover Story, est un résumé et un complément à l'article de couverture de février 2026, ERP Platform Mining. Que font SAP BTP et SAP BDC ? Une discussion critique sur la Business Technology Platform et le Business Data Cloud. Les 22 et 23 avril 2026, Heidelberg, en Allemagne, accueillera à nouveau le Steampunk and BTP Summit de la communauté SAP pour l'Allemagne, l'Autriche et la Suisse. Mais passons maintenant à elle, épisode du podcast E3, ERP Platform Mining.
Bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un vrai géant, SAP et sa stratégie de plateforme. C'est un écosystème assez complexe avec trois piliers qui reviennent tout le temps. S4 SAHA ENA, la Business Technology Platform, la BTP, et puis le tout nouveau concept, la Business Data Cloud, ou BDC.
Oui, et sur le papier, tout ça a l'air de parfaitement s'emboîter. Mais la réalité, quand on creuse un peu dans les sources qu'on a pu analyser, elle est bien plus nuancée.
Exactement. Notre mission aujourd'hui, c'est un peu de comprendre ce qui se cache vraiment derrière ces acronymes. Et l'enjeu, on va le voir, est absolument colossal. Ah oui, on ne parle pas du tout d'une simple mise à jour logicielle. La migration vers S4 HANA, qui est vraiment le cœur du réacteur, c'est une transformation profonde. Et toutes les sources sont unanimes sur un point, le nerf de la guerre, le vrai facteur de risque et de coût, c'est la gestion des données. C'est là que le bât blesse. On va donc explorer les liens, parfois un peu fragiles, entre ces offres. On va plonger dans les défis, techniques bien sûr, mais aussi et surtout économiques et juridiques avec les fameuses licences.
Et puis, on va essayer de décrypter le rôle de cet immense écosystème de partenaires. On y trouve des noms très connus comme Databricks, Snowflake, Google.
C'est parti, décortiquons tout ça. Alors, commençons par le commencement, le passage à S4 HANA. On entend partout que c'est bien plus qu'une mise à jour. Concrètement, qu'est-ce qui rend ce projet si redoutable pour les entreprises ?
Le principal obstacle, et ça ressort vraiment de partout, c'est ce que les Allemands appellent très bien les Altdaten, les données héritées.
Les vieilles données, en somme.
Exactement. Il faut imaginer des décennies de données accumulées dans les anciens systèmes ERP, des données souvent incomplètes, pleines d'erreurs, de doublons. C'est un vrai chaos numérique.
Ah oui, je vois le tableau.
Et on a une étude, citée dans nos documents, qui est très parlante. Elle a été menée auprès de décideurs informatiques. Et pour 39% d'entre eux, l'effort de migration de ces données, c'est le plus grand défi de tout le projet S4 HANA.
Donc, si je comprends bien, on ne peut pas juste faire un...
Non, un simple copier-coller, c'est impensable.
Un copier-coller de l'ancien système vers le nouveau. Quel est le risque si une entreprise se dit bah, « Allez, on migre tout en l'état pour aller plus vite ?»
C'est le pire scénario possible, vraiment. Non seulement on pollue le nouveau système S4HANA, qui est censé être ultra performant, mais en plus, on perd tout le contexte métier de ces données.
Ah, d'accord.
Et le résultat, c'est que beaucoup d'entreprises se retrouvent à devoir maintenir leurs anciens systèmes en parallèle, juste pour pouvoir consulter l'historique. C'est un cauchemar en termes de coûts et de sécurité aussi.
J'imagine, protéger ces vieux systèmes doit être un vrai casse-tête. Mais le problème, ce n'est pas que la qualité des données, si c'est. Les sources insistent aussi sur un changement de structure.
Absolument. S4 HANA impose un modèle de données complètement nouveau. L'exemple le plus parlant, c'est la fusion des anciennes fiches clients et fournisseurs dans un concept unique, le business partner.
D'accord. Pensez-y une seconde. Vous avez des décennies de données clients, de données fournisseurs, chacune avec ses erreurs, ses doublons. Et il faut tout fusionner dans une seule entité propre et cohérente. C'est un travail titanesque.
C'est pas mal essayer de fusionner deux bibliothèques en désordre, avec des systèmes de catalogage différents pour en créer une seule parfaite. Sans une stratégie de nettoyage et de consolidation massive en amont, on ne fait que déplacer le problème, en pire. Bon, le tableau est clair. La migration des données, c'est un chantier colossal. Et face à ça, SAP met en avant sa solution miracle, la Business Technology Platform, la BTP. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec ça, c'est quoi la BTP concrètement ?
Alors, ce n'est pas un cloud privé SAP, non. C'est ce qu'on appelle une plateforme as a service, un PaaS. La meilleure analogie, c'est de l'imaginer comme un immense atelier de haute technologie que SAP met à disposition. D'accord, un atelier. Oui, au lieu de construire vos applications personnalisées dans votre propre garage, vous utilisez l'atelier de SAP, la BTP. Et cet atelier vous fournit tous les outils modernes pour l'IA, l'analyse de données, l'automatisation. Et il est hébergé chez les géants du cloud, les hyperscalers comme Adobe VS, Azure ou Google Cloud. L'idée donc, c'est de garder le cœur de l'ERP S/4HANA propre.
C'est la fameuse stratégie Clean Core, exactement. Et de déporter tout ce qui est spécifique sur cette plateforme BTP. La promesse est belle, plus d'agilité, des mises à jour plus simples, mais nos sources soulèvent un énorme point de friction, les licences. C'est aussi simple que le marketing le dit.
C'est là que ça se complique, et c'est une critique qui revient sans cesse. Le modèle de licence de la BTP est d'une complexité redoutable.
Un vrai champ de mine, c'est le mot. Il n'y a pas de forfait unique, tout compris. La tarification est souvent basée sur la consommation. Par exemple, le volume de données qui passent ou le nombre d'appels à un service.
Et le problème, c'est qu'on ne peut pas l'estimer à l'avance?
Voilà. C'est quasiment impossible au début d'un projet. C'est un peu comme si vous construisiez une maison sans avoir la moindre idée du prix des briques, un prix qui pourrait changer tous les mois.
Ça doit créer une incertitude énorme pour les directeurs financiers et pour les partenaires de SAP, ceux qui développent des applications sur la BTP.
C'est un risque majeur pour eux aussi. Comment vous fixez un prix de vente pour votre service si les coûts de la plateforme sur laquelle ils tournent sont variables et imprévisibles?
C'est commercialement très compliqué à défendre. Absolument. Des partenaires nous ont rapporté qu'ils sont parfois incapables de proposer un prix fixe. Ils doivent dire « le prix c'est X plus ce que SAP vous facturera pour la consommation ». D'ailleurs, la DSAG, le groupe des utilisateurs SAP germanophone qui est très puissant, critique très régulièrement ses coûts, jugés trop élevés et trop complexes.
D'accord. On a donc un REP dont la migration est un défi de données et une plateforme d'extension puissante, mais dont le modèle économique est un casse-tête. Logiquement, SAP a dû se pencher sur sa stratégie de données. On a vu passer plusieurs noms. Data Hub, SAP Analytics Cloud, puis SAP Datasphere. Et maintenant, la Business Data Cloud. Est-ce que c'est juste un nouveau nom ou y a-t-il un vrai changement de front? C'est une excellente question, parce que cette succession de noms a pu créer pas mal de confusion. En fait, la BDC, ce n'est pas tant un nouveau produit qu'une vision stratégique.
Une vision?
Oui. Elle se positionne comme un point d'entrée unique pour toutes les données de l'entreprise. L'idée, c'est d'englober les solutions qui existent déjà, comme Datasphere.
Qui est l'évolution de l'ancien Data Warehouse Cloud, c'est ça?
Exactement. Et on y ajoute une couche de sémantique métier et surtout, on l'ouvre à des solutions partenaires. C'est une tentative de mettre de l'ordre et de créer enfin un paysage de données unifié, prêt pour l'intelligence artificielle.
Donc, si je résume, Datasphere, c'est la brique technologique, l'entrepôt de données modernes. Et la Business Data Cloud, c'est le concept global qui chapeaute tout ça et l'intègre avec des partenaires.
C'est tout à fait ça. La stratégie de SAP est venue très claire. On ne peut pas tout faire soi-même, alors on s'allie avec les meilleurs. La BDC repose fondamentalement sur ses partenariats stratégiques pour combler les manques.
Et on voit des noms comme Colibra, Confluent.
Oui, Colibra pour la gouvernance, Confluent pour le streaming de données, DataRobot pour l'IA et surtout les deux mastodontes du monde de la donnée, Databricks et Snowflake.
Justement, parlons-en de ces partenariats, ils ont l'air cruciaux. Celui avec Databricks en particulier est présenté comme une révolution. On parle de redéfinir la collaboration. Sur le papier, le leader des ERP avec le leader de l'IA et des lakehouses, ça semble être le mariage parfait.
Oui, la promesse est très forte.
Mais nos sources suggèrent qu'il faut regarder un peu sous le capot. C'est quoi la réalité technique de cette intégration régère?
C'est la question à un million. Le marketing parle d'intégration profonde, d'une fusion des capacités. Mais quand on creuse la documentation technique, on s'aperçoit que la connexion repose, pour l'instant, sur une interface qui s'appelle Zero Copy Connectivity via Delta Sharing.
D'accord, et ça veut dire quoi en clair?
En clair, il faut voir ça moins comme une fusion, profonde, de deux technologies et plus comme la construction d'un pont, très efficace, mais un pont standard entre deux îles qui restent bien séparées.
Un pont? Pas un continent.
Voilà, la nuance est importante. C'est bien, c'est très utile, mais ce n'est peut-être pas le paysage totalement unifié que la communication de SAP laisse entrevoir.
Intéressant. Et pour l'autre géant, Snowflake, on a aussi une grande annonce de partenariat. C'est le même modèle.
Oui, la tendance est très claire. La collaboration annoncée avec Snowflake, qui est prévue pour 2026, repose sur le même principe de Zero Copy. L'idée est de permettre un partage des données entre l'univers SAP et Snowflake sans avoir à dupliquer physiquement les données.
Ce qui est une bonne chose en soi.
Bien sûr. Mais ça confirme la stratégie. SAP ouvre son écosystème en créant des connecteurs, des ponts, vers les plateformes leaders du marché. Ce qui m'amène à une question qui semble évidente et qui est posée dans nos sources. Si SAP utilise des partenaires comme Databricks et Snowflake, et que ces partenaires sont déjà disponibles sur le marché, est-ce qu'une entreprise ne pourrait pas simplement décider de construire sa propre architecture en se passant de la Business Data Cloud de SAP? C'est le cœur du débat stratégique aujourd'hui pour beaucoup d'entreprises. Pourquoi est-ce que je passerais par la BDC de SAP pour utiliser Databricks si je peux contractualiser directement avec Databricks?
Il y a des alternatives.
Oui, bien sûr. Des solutions comme celle de Boomi, par exemple, offrent une approche qu'on dit agnostique. Elles permettent d'extraire les données de SAP et de les envoyer vers n'importe quel data lake ou data warehouse, que ce soit Databricks, Snowflake ou un autre.
La question est donc ouverte.
Elle est plus qu'ouverte. Une architecture qui combine directement Databricks, Snowflake et Confluence sur un cloud public pourrait-elle être une alternative plus flexible et peut-être moins coûteuse à la BDC? Pour beaucoup, la réponse est oui.
Et au milieu de tout ça, il y a les grands intégrateurs. Les documents citent tout le temps Accenture, Deloitte, PwC, EY, Capgemini. Quel est leur rôle dans cet échiquier de plus en plus complexe?
Leur rôle est absolument fondamental. Ce sont les architectes et les guides dans cette jungle. Ce sont eux qui aident les clients à naviguer dans la complexité non seulement technique, mais aussi contractuelle, des licences SAP et partenaires.
Ils conçoivent les solutions?
Oui, qu'elles soient toutes SAP ou hybrides, et ils les mettent en œuvre. Sans leur expertise, la plupart des entreprises seraient complètement perdues face à toutes ces options, ces combinaisons possibles entre S4A-SAIP, BTP, BDC, Databricks.
Alors, si on essaye de synthétiser un peu tout ça, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette analyse de la stratégie de SAP?
Premièrement, que la transformation S4ANA est avant tout un projet de données. Le succès ou l'échec dépend de la capacité à maîtriser ces données héritées. Ça, c'est le point de départ.
D'accord. Point numéro 2.
Deuxièmement, la BTP est bien le pilier technique de la modernisation, mais son modèle de licence est un frein majeur. Il pénalise la prévisibilité des coûts et du coup l'innovation.
Et troisièmement, la nouvelle vision de la Business Data Cloud, avec ses partenariats et la tentative de SAP de répondre enfin à cette demande d'un paysage de données unifié. Mais, comme on l'a vu, le diable se cache dans les détails de l'intégration réelle.
Exactement. Et tout ça nous amène à une réflexion un peu plus large. SAP est en train de construire une véritable économie de plateforme, ce qui est une stratégie très intelligente.
Mais en centralisant les outils, les données, et maintenant les partenariats via la BTP et la BDC, cette stratégie crée aussi de nouvelles formes de dépendance. Nos sources germanophones utilisent un terme très parlant pour ça. Le Klumpenrisiko, le risque de concentration. On met tous ses œufs dans le même panier.
Voilà. Un panier de plus en plus contrôlé par SAP, même s'il contient des produits d'autres marques.
Ce qui nous laisse avec une pensée finale pour ceux qui nous écoutent. La question fondamentale qui se pose à toute entreprise qui utilise SAP n'est plus seulement « comment migrer vers S4ANA ?» Non, la question est devenue « comment tirer parti de ce puissant écosystème pour innover, tout en construisant une stratégie qui garantit notre propre souveraineté sur nos données ?» Comment éviter de se retrouver piégé dans la feuille de route, les choix techniques et les modèles de licence d'un seul fournisseur?
Surtout quand les briques technologiques de cet écosystème sont elles-mêmes disponibles indépendamment et peuvent être assemblées différemment. C'est une réflexion qui est absolument essentielle pour quiconque prépare son avenir numérique.
C'était un épisode consacré à l'article à la une de février 2026. La stratégie de la plateforme SAP entre chantier et piège des licences. Le thème de la plateforme technologique commerciale SAP sera également abordé lors du Steampunk and BTP Summit les 22 et 23 avril 2026 à Heidelberg, en Allemagne. Nous nous réjouissons de vous accueillir à ce sommet de la communauté SAP. Réservez dès maintenant votre billet sur le site web du magazine E3. Merci beaucoup pour votre intérêt. À bientôt pour le prochain épisode du podcast E3 Cover Story, le jeudi 26 février 2026.